418-971-1021, si vous avez des choses à me dire. Une superbe de belle journée, c'est ce qu'on a présentement, c'est du beau soleil. Est-ce que ça va être ça pour les prochains jours? Bien, si on en croit Environnement Canada, pour demain, ça devrait être aussi ensoleillé avec un maximum de 25. L'indice Humidex, température ressentie de 28. Actuellement sur Québec, c'est 24. Donc, ça se prend bien. Samedi, du soleil, maximum de 24 degrés. Et dimanche, ce sera nuageux, maximum de 15. Peut-être un peu de pluie en soirée. 40 % de probabilité d'averse et le retour du soleil serait prévu pour lundi 9 septembre déjà. Alternance de soleil-nuage avec des probabilités d'inverse à 40 % maximum de 19. En direct de l'aéroport international John F. Kennedy. T'es à New York, Martin. Comment ça va, Martin Bourget? Martin, est-ce que t'es là?
Oui.
Tu m'entends bien? Comment ça va à JFK Airport?
Ben moi, ça va super bien. Je m'en vais en vacances. Vous autres, ça va comment à Québec?
Ça va bien. Je me dis que quand tu passes d'un aéroport comme aéroport international Jean-Lesage à JFK, tu dois faire un méchant saut.
Interna quoi?
International. Non, mais on a super de bel aéroport à Québec, mais ça n'a rien à voir avec les gros aéroports comme John F. Kennedy.
Du tout, puis même Montréal. Je veux dire, probablement qu'un de mes, aéroports, pas préféré, mais à l'inverse, l'aéroport que je déteste le plus au monde, c'est l'aéroport de Montréal. Honnêtement, on voyage énormément. Tu vois, là, je m'en vais transiter par le Kenya, Nairobi au Kenya, qui a zéro les moyens technologiques qu'on a, qui ont zéro les infrastructures qu'on a, puis j'ai plus de services, je perds moins de stock, j'ai plus de facilité à accéder à mes avions, etc., partout dans le monde, à part au Québec et surtout à Montréal. Là.
John F. Kennedy,
c'est un bon exemple.
Là. C'est fascinant, ça. Puis un aéroport qui, selon toi, s'est amélioré ou a été rénové de grâce, mettons, dans les dernières années?
Un quoi, tu me dis?
Un aéroport.
Tu veux que je te nomme un aéroport qui a été rénové ou qui a été réchappé de grâce?
Oui, bien, qui t'a surpris là, à travers tes voyages, justement, dans la coordination.
À Johannesburg. Johannesburg, définitivement. Johannesburg, là, on est au centre. Johannesburg, Vegas aussi m'a surpris énormément à la quantité de vols qui entrent et qui sortent de Vegas à la minute. La coordination qu'ils sont obligés d'avoir pour un aussi petit aéroport, c'est quand même assez gros, là. C'est plus gros chez nous, là. Mais c'est impressionnant de voir le nombre de in et out à Vegas et ils réussissent à coordonner ça. Johannesburg, là, on est vraiment dans l'international. International. On a de toutes les ethnies au pouce carré qui rentrent de partout. Ça parle de toutes les langues. On doit avoir de tous les types de nourriture pour satisfaire à tout le monde. C'est hallucinant ce que le staff est capable de faire dans un aéroport comme celle de Johannesburg, s'adapter à toute cette clientèle-là qui viennent pour toutes sortes de raisons, avec toutes sortes de langues, toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de places.
Là, tu pars de John F. Kennedy, tu t'en vas au Kenya, fait que tu vas traverser l'Afrique de long en large.
Oui, on n'a pas passé par... D'habitude, on passe par l'Union européenne, c'est moins long. On fait soit Frankfurt, Heathrow à Londres ou encore Amsterdam ou Paris. Là, avec tous les démantèlements des Jeux olympiques, les équipes qui reviennent, c'était très, très cher. Fait que oui, on dépasse un peu le point final qui est Johannesburg pour aller à Nairobi au Kenya. Puis on redescend sur Johannesburg. Puis de là, ben les camions vont nous prendre. On a 5 heures de brousse à faire pour aller au camp. Fait qu'on va être au camp. Vendredi soir, on est rendu au camp,
là. Puis vous allez faire quoi là-bas? C'était avec qui présentement?
On est avec un groupe d'à peu près 25 Québécois qui s'en viennent participer aux efforts de chasse de conservation qu'on va faire avec les gens dans le nord de l'Afrique du Sud, la frontière Zimbabwe, Limpopo, là, Botswana. Donc, ces gens-là vont venir faire leur première chasse en Afrique. Ils vont participer à leur première chasse de conservation dans un premier temps, ce qui est très lourd de sens positivement. Puis, ils vont pour la première fois voir l'Afrique. Là. Fait que ça, c'est pour ce groupe-là ici, pour l'Afrique du Sud. Ben, tu sais, c'est qu'un reflet de ce qu'on peut faire. On est en train de regarder pour d'autres opportunités pour les gens qui nous suivent, là, de nous suivre à la pêche, en océan, Costa Rica, des trucs comme ça. Parce que les gens ont peut-être peur, un petit peu trop peur de voir qu'est-ce que ça peut coûter de voyager d'un fois dans la province voisine, d'un fois juste sauter la grosse flaque d'eau qui entre nous autres puis l'Europe pour aller voir de quoi ça a l'air l'autre bord en activité de plein air, de chasse, de pêche, de villégiature. Il y a quoi de beau à voir, puis souvent à beaucoup moins cher que vous le pensez.
Puis les gens qui vous accompagnent en ce moment, c'est quoi les groupes d'âge? Qui a été intéressé par ce type de chasse-là? C'est-tu leur première fois aussi?
Ah non. Écoute, mon doyen, présentement, nous autres, on l'appelle le jeune parce qu'honnêtement, il est super le fun, il est pince sans rire. Louis a 78 ans. Il est avec nous autres, s'en vient en Afrique du Sud, va chasser là-bas. Et j'ai des jeunes d'à peu près là, 19, 20, 21 ans dans ces âges-là. On a eu plus jeunes que ça aussi qui sont montés là-bas. Ils viennent de là-bas. Les enfants des propriétaires sont tout le temps sur place. Avec les jeunes se mêlent avec eux autres. Tu vois, regarde, on monte justement un arc à flèches pour la chasse en cadeau à un des enfants des propriétaires là-bas. Donc, on a le plus jeune qu'on a eu, ça a été 15 ans. Le plus vieux, je crois, 82 ou 83.
Puis est-ce que vous vous sentez à l'aise de faire du plein air dans ces endroits-là? T'sais, parce qu'au Québec, on fait du plein air, puis bon, on a notre tente et tout ça, puis on sait que le plus gros qu'on peut avoir, c'est un ours noir qui s'intéresse à la nourriture. Il va venir se promener, puis s'il y a de la nourriture, il va prendre ça, puis après ça, il va s'en aller. Mais il me semble que dans ces endroits-là, il y a des animaux qui sont un peu plus féroces là, envers l'être humain. Est-ce possible de faire d'expédition là-bas?
Bon, écoute, quand t'étais jeune, j'étais jeune, le plus grand risque pour ta vie, c'était de contredire ton père. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, les parents disent plus rien. Ici, au Québec, on peut se promener, se foutre de la nature, pas la respecter, puis il se passe pas rien. Là-bas, il y a un danger imminent qui est réel. Fait que je te dirais qu'en réalité, d'enseignement en nature, je me retrouve en terrain beaucoup plus intéressant là-bas, en disant, non, ici, tout a de l'incidence. Si tu fais un faux move, t'es peut-être le souper, là.
Ben c'est ça. Fait qu'il faut que tu sois dans un endroit qui est tout le temps surveillé. Vous autres, c'est votre cas, là. Vous êtes dans une genre de pourvoirie.
Ah non, on va dans le territoire libre. Présentement, tu vois, on est en pleine saison de reproduction. C'est bourré d'hippopotames, crocodiles, éléphants sur le long du Limpopo. On va y aller. C'est
excessivement dangereux. Les assurances, Martin, je m'excuse, mais mettons, ça a-tu été des discussions importantes?
La Croix-Bleue te dit quoi quand t'as dit que t'allais dormir à côté d'un hippopotame?
Nous autres, on a Manu Life, mais on a le forfait annuel, moi, puis Kate, avec les noms de nos enfants écrits dessus. Comme ça, si on disparaît dans le fleuve Limpopo, ben au moins les enfants vont avoir de quoi nous enterrer puis survivre par après. Mais pour vrai, ça t'apprend juste à mieux te préparer. Ça t'apprend juste à faire quelque chose qu'on oublie de faire au Québec. Puis on le voit beaucoup trop souvent dans le bois. Les gens veulent du McDonald's quand ils vont là. Ils veulent consommer une pourvoirie toute prête, toute faite, tout ci, tout ça. Là, ça t'oblige à observer parce que si tu n'observes pas, tu es peut-être en danger. Mais si vraiment tu fais ta job, que tu profites de la nature, que tu l'observes, que tu regardes ce qui se passe, que tu observes du comportement animalier, que tu sais comment ça va réagir, que tu te prépares adéquatement, que tu vas là dans les heures qui sont pas trop... Il y a toujours un danger. Il y a un danger, Yannick, de traverser la rue pour aller au dépanneur. Mais si tu le fais de manière planifiée, puis tu attends que les chars soient passés, tu vas te rendre au bord, c'est la même chose à faire. C'est juste d'y aller avec le gros bon sens, de bien prévoir, d'observer. Tout se passe bien.
Sans connaissance que j'étais il y a de ça quelques années, je me disais, ah, ça doit être cool, pareil, d'observer les hippopotames sur le bord d'un lac, mais ça court vite en sacrifice après Jeep.
C'est super dangereux.
Pas mal. C'est une des bébites qui, moi, me fait le plus peur là-bas. Parce que c'est imprévisible, ça sort de l'eau au début son en n'importe quel temps. Ça me fait plus peur, ça, que les lions ou quoi que ce soit, parce que les lions, on sait où est-ce qu'ils se tiennent. Quand le soleil est là, on sait qu'ils sont à l'ombre, qu'ils sortent plus tard, on est capable de prévoir. L'hippopotame, moins. C'est pas mal, hein? Surprise, je suis là, puis oui, c'est très, très, très vilain. Quand on est dans la saison, où est-ce que les hippopotames doivent vraiment sortir du lit de rivière pour s'alimenter puis s'abreuver, parce que le lit de rivière est bas, ben on va pas niaiser dans ce coin-là. Et si on a à le faire, parce qu'on utilise ces coins-là régulièrement, ben on va aller apporter beaucoup, beaucoup de balles de luzerne dans la barre des rivières pour que les hippopotames ne sortent pas sur les champs de culture puis qu'ils deviennent un danger pour nous autres. On va s'organiser pour qu'est-ce qu'ils ont besoin sur le bord de la rivière. On est arrangé avec les cultivateurs dans ce coin-là. Ils vont domper des trailers de luzerne. De cette façon-là, ça les garde dans la rivière.
Moi, j'ai eu une certaine obsession pour les hippopotames quand j'ai su que c'était un des animaux les plus dangereux pour l'homme. Puis j'avais fait des recherches récemment. Là. Écoute, es-tu de 300 à 3000 humains par année? On rapporte ça, là, le nombre d'humains morts par des hippopotames. Là, je suis allée rechercher là, les canines, ça va jusqu'à 50 cm de long. Puis la force dans la mâchoire est trois fois plus puissante que celle d'un lion. Une morsure d'hippopotame, ça peut couper le corps d'un humain en deux. Comme avec un couteau chaud dans du beurre. Là. On raconte, puis c'est une histoire vraie, pour un petit gars en Ouganda qui a été avalé, il y a deux ans, petit gars, il a été avalé par un hippopotame puis il a été recraché vivant, mais un bon bout après. Là. Lui, il a fait comme le bonhomme là, dans la baleine. Là. Mm-hmm. C'est ça qui est arrivé.
Jonas?
Oui! Jonas!
Mais... sais, quand on dit qu'on tremble dans guimauve ici au Québec, là. Quand on voyage, on regarde les Sud-Africains, entre autres, les Africains de manière générale, quand ils abordent la forêt, quand ils rentrent dans la forêt, quand ils regardent le lit de rivière, quand ils regardent le baobab, ils le font avec un respect qui est tellement immense. Ça peut pas faire autrement qu'être excessivement intimement lié avec tout ce que tu viens de dire, Pascal, parce que ils vivent une réalité qui est totalement différente de la nôtre, qui, dans leur bois, eux autres, dans leur réalité, l'animal est aussi un prédateur face à eux autres. Ils font aussi partie, mais pas nous, là, ils font aussi partie de la chaîne alimentaire, et ils peuvent ne pas... Alors, ces gens-là apportent un très grand respect, comme le respect qu'on apportait à notre père et à notre mère quand on était jeunes et que les services corporels étaient à la mode, ben c'est un peu la même chose. Il y a un respect envers la nature parce qu'il y a un réel danger. Ils se sont pas accaparés leur nature au même point qu'on le fait ici. Il y a des efforts de conservation dans lesquels ils sont impliqués. Ils sont au cœur de la réalité, de la fluctuation des cheptels animaliers là-bas, parce que l'économie bat au bout de la ligne, bat réellement avec la fluctuation des cheptels animaliers, et c'est leur réalité. Eux autres, ça peut faire la différence entre un village qui mange ou un village qui meurt. Mon Dieu, je me dis, ils sont chanceux d'un certain sens parce qu'ils ont, la bonne salle de cours pour leur enseigner ce que c'est que de respecter la nature. Nous pas. Puis en plus, on l'a emmelassé en prenant le contrôle comme on l'a pris ici. On l'a plus, ce respect-là.
Ouais. Puis là où tu t'en vas, il n'y a pas de gens qui se gonnent des pancartes en disant cessez de vous armer pour vous défendre.
Non, eux autres, là, où est-ce qu'on s'en va, là, ça tombe à genoux en pleurant quand on débarque dans les villages, dans les crèches, puis dans les écoles avec de la viande, parce que eux ont plus le moyen, de par la constitution, la façon dont l'Afrique est faite avec les territoires privés, etc., d'aller chercher leur nourriture. Alors, quand ils nous voient arriver, ils sont hyper contents parce qu'on fait partie d'un espèce d'écosystème dans lequel, s'ils font attention à nous autres, ils vont avoir de la viande.
OK. Mais ils n'ont pas le droit de chasser.
Mais ils le peuvent. Le problème, c'est que le gouvernement sud-africain a tellement laissé surexploiter ces territoires libres qu'il n'y a plus rien à chasser en territoire libre ou à peu près. Ce qui reste à chasser en Afrique est dans les réserves nationales ou encore sur les terrains privés. Parce qu'en Afrique, il y a une loi qui t'oblige à clôturer un terrain privé. Quand même, il y aura 6 pieds carrés, tu es obligé de le clôturer. Donc, ce qui reste de vivant, chassable, est sur les territoires privés. Alors, il y a deux choses qui arrivent. Dans l'époque de l'année où il n'y a pas beaucoup de chasseurs internationaux, eh bien, les propriétaires privés vont laisser les Africains entrer sur le terrain et venir chasser pour de la viande, mais ils sont pas outillés comme on peut l'être, ils sont pas efficaces. Et le peuple africain a grandi à une vitesse épouvantable dans les dernières décennies, mais c'est décentralisé des milieux périurbains, c'est en allé dans le milieu complètement urbain, donc ils se sont distancés de leurs sources de nourriture. Là, ils sont un paquet dans des très petits secteurs où est-ce qu'ils réussissent pas à s'approvisionner correctement. Fait que l'échange, l'espèce d'écosystème des Sud-Africains et des chasseurs ou des touristes à l'international devient excessivement important parce que là, c'est nous qui rentrons dans les territoires où est-ce qu'il y a des animaux. On les chasse avec les moyens technologiques qu'on a. Et en sortant de là, ben, on peut pas les ramener chez nous. Donc, on en mange sur place. Et je te donne un exemple. Une girafe, une fois qu'on a nourri le camp de chasse, il reste une tonne de viande. Littéralement, là, une tonne de viande qu'on va porter au village, aux crèches, aux écoles, à l'entour. Ça, c'est un animal. Dans un safari, il va s'en tuer, je sais pas, dépendamment, il va se récolter, excuse-moi. S'il y a une vingtaine de chasseurs, on va dire qu'il va se récolter au moins 20 animaux. Fait que c'est un ratio un peu du poids en viande qu'on va leur apporter à eux, qui ont plus ce moyen-là d'aller chasser, qui n'ont pas les bons outils pour le faire, puis qui, dans la constitution gouvernementale, puis la hiérarchie des villages, ont plus le droit de le faire comme ils le veulent. Ben, c'est très salutaire comme action au bout de la ligne. C'est un bel échange.
Mais comment est-ce qu'on explique le fait qu'eux ne puissent plus, malgré la division des territoires, puis que des gens qui arrivent de l'extérieur peuvent le faire quand il s'agit de nourrir une population aussi? Puis sous question à ça, tu dois avoir des critiques des fois, Martin, qui entrent par rapport à la chasse.
Ben, définitivement.
Tu as dit girafe, j'ai l'impression qu'il y a une couple de personnes qui ont frissonné aussi, là.
Oui, ben si on met la circonstance alentour de ça, lorsqu'on choisit par exemple d'abattre un grand mâle girafe, eh bien on choisira pas parce qu'on ressent le besoin d'aller tuer une girafe ce matin, mais on fait de la gestion, on fait de la chasse de gestion là-bas. Donc si un mâle girafe qui est rendu vieux, qui piétine tous les bébés qui sont pas sagénétiques à mort parce que ça provient pas de lui, qui laisse pas les jeunes mâles girafes accoupler les femelles, qui contrôlent le cheptel, ben le cheptel de chevreuil, de girafe, ça en va vers une mort certaine, puisqu'il n'y a plus personne qui peut accoupler les femelles.
J'ai l'impression que dans un règne animal, Yannick, on l'abattrait là, avec la description que tu viens de faire.
Je serais une girafe.
ce genre-là.
Ben, c'est ça.
Pascal, as-tu déjà vu des girafes se battre?
C'est agressif avec la tête.
Ils se donnent des coups de cou.
Ah oui.
Puis l'objectif de la girafe, c'est d'y casser le cou à l'autre.
C'est sûr qu'après, une survie est moins possible.
C'est des commotions cérébrales.
C'est des commotions cérébrales, oui.
Ben, tu vas dans ce sens-là, puis dans ces circonstances-là, ben, tu t'en vas récolter ce grand mâle girafe-là. Tu enlèves le bouchon qui existe sur l'évolution de ce cheptel-là. Fait que les plus jeunes mâles vont pouvoir commencer à coupler les femelles. Tu as assuré la prospérité ou la pérennité, ou du moins tu as participé aux efforts de pérennité de ce cheptel-là. Là, tu as dans tes mains une tonne de viande avec laquelle tu peux nourrir la population. C'est quand même bon, là. La raison pour laquelle on est rendu là, pour te répondre à cette partie de question-là, Pascal, c'est qu'il y a eu de la surexploitation. Il y a eu énormément de surexploitation, de surconsommation, et dans la façon dont la hiérarchie des villages fonctionne là-bas, le chef du village choisit tout ce qui se passe. Puis tu vas rentrer dans des villages où est-ce que tu vas avoir 250 habitants qui vont dormir dans 3-4 feuilles de tôle avec une feuille de plywood sur le toit, puis le chef du village, il y a une maison de 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions. Tout ce qui est abattu ou récolté à l'entour s'en va chez le chef du village, puis lui choisit ce qu'il fait avec. On n'est pas dans le même genre de réalité qu'ici, et ça, c'est leur mœurs, c'est leur coutume, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils en sont arrivés à surpopuler leur territoire et à surconsommer ce qu'il y avait assez que les territoires qui leur appartiennent ont été surchassés. Donc, s'il n'y aurait pas présentement les réserves de biodiversité qui sont opérées par des ranchers qui font chasser ou récolter par des chasseurs à l'international les animaux sur ces territoires-là, ben, il n'y en aurait plus d'animaux en Afrique du Sud. Parce que si tu regardes les grands parcs nationaux, avec les pressions de Greenpeace, il est supposé avoir 3 500 éléphants au maximum dans le parc Kruger. Avec la pression de Greenpeace, il y en a 35 000. Je peux t'annoncer quelque chose, il n'y a pas un arbre de bout là-bas qui en vaut la peine pour la nidification des oiseaux de proie, pour nourrir le petit coudou, pour nourrir le springbok, pour nourrir le tsetsebe, le red-hearted beast, etc. Donc, ils ont... En essayant, on connaît ça un peu là, avec le gouvernement québécois, en essayant de faire une belle pancarte électorale dans la réintroduction et la conservation de l'éléphant, ils ont détruit un écosystème complètement. Et ça, ils le répètent de parc en parc en parc en parc. Si ce ne serait pas des propriétaires terriens qui sont des réserves de biodiversité qui font chasser des chasseurs internationaux, il n'y aurait plus rien qui vit là-bas.
Martin Bourget, je sais que tu es à JFK présentement à l'aéroport. Il te reste encore 2-3 minutes? Bon, parfait. Hey, est-ce que, parce que là, tu as des gens avec toi qui vont faire de la chasse, tu en as d'autres qui vont faire de la photographie. De ce que je comprends, c'est qu'il est hors de question qu'un photographe parte non armé, là, tout seul, dans la brousse pour essayer de prendre des photos. Il est toujours accompagné de quelqu'un qui a une arme à feu.
Oui. Okay. Oui. De toute façon, dans la formule qu'on utilise, nous autres, bien souvent, les photographes vont nous suivre pendant qu'on va dans nos expéditions de chasse. Parce que, évidemment, on s'en va à la chasse. Fait qu'on va déployer beaucoup, beaucoup d'efforts pour voir des animaux. Puis le photographe, c'est ce qu'il veut dans sa lentille. Fait que généralement, il y a pas mal de temps. Un photographe va être couplé avec deux chasseurs, un guide et un tracker dans une boîte de pick-up de safari. Et puis, il va prendre en photo les animaux qu'on va réussir à trouver. Fait qu'il est toujours protégé. Fait qu'il y a toujours au moins deux armes à feu, puis souvent l'arme de poing du guide en plus.
Est-ce que tu t'es déjà fait courir après des animaux de ce type-là, que ce soit des hippopotames,
ouais, un cape,
des éléphants?
Un cape buffalo. Honnêtement, pour sauver mes chums, deux chums avec les genoux déboîtés et une petite fille du lodge qui venait voir de quoi ça avait l'air la chasse.
Ça, c'est donné, celui qui a genre les cornes en U, là?
Ça ressemble à un taureau.
Oui, le gros, ben, celui que j'ai récolté, je t'ai montré, Pascal, quand t'étais au chalet avec nous autres, le gros bœuf que j'ai récolté là, au printemps, là. Bon, mais ben, un gros taureau, là, de un gros, de les plus gros taureaux que vous avez vus, là, dans les bullfighters, là, ben, plus gros que ça, là, tu sais. Celui que j'ai récolté au printemps, une fois désossé en viande, ça a donné 920 livres de viande, là. D'os, plus rien, là. C'est énorme, énorme. Il y a quelques années de ça, on a eu à se sauver parce qu'il y en a un qui était très malin envers nous autres. Puis, comme Yannick a toujours dit, tu traînes quelqu'un qui court moins vite que toi. Mais là, mes deux chums, ils ont les genoux défaits. Il y en a un qui a trop sauté en parachute, l'autre qui était pro-golfeur de la PGA pendant je sais pas combien de temps, puis la petite fille de 16 ans, elle peut pas courir. Fait que moi, j'ai fait comme, me prendre mon mal en patience, puis je vais me piquer une ride jusqu'à la clôture, comme ça, il va me suivre, il va l'éloigner de mes chums qui vont pouvoir se suivre. Grave, grave erreur. J'ai été pris dans le haut d'une clôture de 12 pieds à attendre pendant que le taureau essayait d'arracher les poteaux, que les pick-up viennent faire...
Ah, comment qu'on se sent quand on est dans le haut d'une clôture pendant que le taureau, il veut te ramasser?
Avais-tu le slip mouillé, Martin?
On se sent dans la bonne réalité. On se dit, d'un fois, c'est aussi le taureau qui gagne, hein?
Ouais, exact.
Bon, mais là, qui est venu te chercher, là, vraiment? Il y a eu des gens de la garde, comme tu as dit, qui sont passés?
C'est Kate.
Non, ben, non
c'est,
les guides, c'est Kate. Les guides sont venus faire des...
Kate est allé le
soir. Non, Kate était au Québec à ce moment-là. Les guides sont venus faire des beignes avec les pick-up un petit peu plus loin sur le terrain, puis c'est très attiré par le mouvement. Fait qu'il est parti à la course vers eux autres, puis on a pu se sortir de là, aller à notre véhicule, qui était à moitié scrap, parce que le bœuf l'a ramassé aussi.
Les guides, on n'a jamais rien entendu parler d'eux après leur burn en 4x4.
Ah oui, après ça, ils sont partis à 130-140 km/h sur la route, ils sont rentrés au camp. Ouais.
Martin Bourget, président du groupe Aventure Chasse-Pêche, comment on fait pour suivre vos aventures?
Le plus simple, c'est le acpnation.com, définitivement. Sinon, bien, contactez-nous directement au travers de nos médias sociaux. L'émission recommence au mois d'octobre, tous les jeudis soirs, 21h sur les ondes de Télémag. On va être en live aussi là, sur les Facebook, etc. de ce monde dans les heures qui précèdent l'émission, à tous les soirs pour vous amener jusqu'à l'émission. Soit écrivez-nous ces médias sociaux ou écrivez à Yannick, il va nous transférer le message.
L'épisode où Yannick n'est pas venu là, au chalet, à la pêche, là, il n'est pas venu. Yannick, tu te rappelles, il avait choqué.
C'est un lâcheux.
Yannick, il a lâché, il a choqué. Est-ce qu'on va voir ça cet automne?
Ben, on peut bien faire, oui. C'est-tu cet automne, celle-là? Attends un peu. Oui, je pense que c'est cet automne.
À suivre.
Donc, tu nous diras quand ça va passer. On va regarder Pascal se faire hameçonner ses propres verres.
Super, merci.
Ben oui, je pense que c'est à l'automne. Sinon, écoute, ça va être février de bonheur.
Martin Bourget, merci.
Allez, merci à vous autres.
Salut, bye-bye. L'excellent Martin Bourget, qui on a le plaisir de jaser. Hey, il s'en va en Afrique dans un safari avec un groupe qui le suit, qui accompagne.
Hey, l'homme de 70 ans
passé.
Des
chasseurs qui vont être là, il va y avoir des photographes aussi. Moi, je suis plus type photographe. Là. Ouais. Par contre, je suis tout le temps le premier à lever la main quand quelqu'un dit « Est-ce quelqu'un qui veut de la viande de caribou? »
Ça, t'aimes ça, tout ce qui est viande de mettons. Bois, là, ouais. Okay, ouais, ça t'aime ça.
Je lève ma main. Mais j'ai hâte, c'est sûr, un jour que dans quelques années, je vais y aller.
Ce serait fascinant.
C'est un petit peu plus complexe pour mes vacances. Là. Fait que, t'sais, ça prend au moins un bon 2 semaines de vacances.
Ben, on pourrait peut-être faire une demande professionnelle.
Ça passera pas.
Puis je pourrais dire au patron que je vais te jeter devant le gros bœuf.
Ah, ben là,
ça va peut-être passer.
Il y a peut-être des chances que ça passe.
T'sais, on pourrait avoir quelques aventures intéressantes. Dis de même, c'est pas ça que je voulais évoquer. Tu comprends que c'était des J'ai regardé pendant la chronique avec Martin.
Oui.
Les animaux qui tuent le plus d'humains par an?
Hey, c'est des bonnes questions, ça. Peut-être que les auditeurs pourraient participer. 418-971-101. Ouais. C'est quoi les animaux qui tuent le plus d'humains par année?
J'ai un top, top 10.
J'ai l'impression que c'est quelque chose d'hyper banal. Ça se peut-tu que ce soit... Mais, tuer en agressant, mettons?
Ça veut dire quoi pour toi, agresser?
Ben, je sais pas, parce qu'il y a des animaux qu'on peut manger qui peuvent nous tuer, parce qu'ils sont infectés.
Ah, OK, ouais. Il y a une certaine agression, là.
OK, il faut qu'il y ait une agression.
Mais je te dirais qu'il te fend pas à peau, tout.
Moi, je dirais, les hippopotames. Oui, on en a parlé tantôt. Les hippopotames, après ça, les éléphants.
OK.
Selon moi, c'est les plus agressifs. J'ai déjà vu un chameau agressif. Tu veux pas être agressé par un chameau parce qu'il te pogne la tête et il te pitche au bout de... Il
de
donne
son
un
coup.
Swing. Ouais.
Je dirais que je comprends, chameau, dromadaire, mais en fait, tout ce qui pourrait t'attaquer, ça ne te tente pas. Mais on n'est pas là-dedans. Puis, tu sais, les hippopotames, rappelle-toi, je t'ai dit que c'est entre 800, 3000.
Quelqu'un qui me dit les moustiques.
Ben, c'est la position numéro 1.
Hein?
Le moustique, là, c'est 1 million de morts par an. Oui.
Ben oui.
Pour certains, c'est une surprise. Pour d'autres, quand tu y penses, ça ne l'est pas. T'sais, c'est toujours en tête des animaux les plus dangereux pour l'homme et toujours de très, très loin. Parce qu'on estime qu'avec les différentes espèces de moustiques, ben, c'est près d'1 million de décès par an. Puis le moustique tigre, c'est celui qui est considéré comme le plus mortel parce qu'il transmet plein de maladies mortelles. La dengue, le zika, le chikungunya. Ça, je la connaissais moins, ça, c'est originaire d'Asie.
Quelqu'un qui me dit, Elvis, qui me dit, les abeilles.
J'ai pas les abeilles dans le top 10 des animaux qui tuent le plus, OK? Le deuxième, celui, quand tu te mets à penser puis à réfléchir un petit peu plus longtemps autour de ta bière, c'est l'homme. L'homme qui tue l'homme, c'est pas 1 million comme le moustique, mais c'est 546 000 morts par an. Donc, l'homme est un loup pour l'homme, puis les homicides sont responsables de ces morts-là. C'est le mammifère le plus dangereux pour sa propre espèce. Numéro 3.
Crocodile.
On viendra au crocodile, mais numéro 3, c'est pas le crocodile.
La femme mariée.
Pense-y, c'est une...
femme mariée est trompée.
Non, numéro 3. C'est ce que tu viens d'être, une pauvre vipère de serpent. Donc, c'est les serpents, serpent. Oh, ouais. 100 000 morts par an par le venin qui se répand. On s'entend que l'espèce de serpent venimeux, là, c'est le plus dangereux. Ça, il s'appelle le mamba noir, celui qu'on retrouve dans plusieurs pays africains qui est très, très mortel. Quatrième, moi, il m'a surpris.
Ben, le crocodile.
On revient à des débats. Non, vraiment surprise. Là. Il revient à des débats de villes, de municipalités.
Un policier.
Un chien. C'est pas un synonyme. Un chien. Donc, 30 000 morts par an. C'est le nombre de morts.
30 000 personnes.
30 000 décès par an dans le monde avec les chiens. Donc, on nuance un peu la raison de proximité constante des chiens avec les hommes. Là, il y en a plus autour de nous. Mais on estime quand même que la population canine mondiale est à 700 millions d'individus. Donc, 25 % sont à peine domestiqués. Il n'y a pas beaucoup de chiens domestiques. Donc, ceux-là qui ont peut-être une rage ou autre, attaque, morsure.
Des auditeurs par texto au 418-971-1021 qui disent orc. Puis l'autre, j'ai scorpion. Ouais, scorpion, c'est un bon...
Les deux ne sont pas dans la liste. Non, mais c'est sûr que je m'en prendrais pas à un orque, on s'entend, là, surtout pas à Maryland. L'escargot d'eau douce m'a fait éclater de rire en silence tantôt. C'est en cinquième position. L'escargot d'eau douce, c'est 20 000 morts par année. C'est un animal aquatique, comme disait notre cher...
L'escargot d'eau douce, il tue des gens?
Oui, 20 000 morts par année. L'escargot d'eau douce, qui est un animal aquatique très meurtrier, puis... C'est comme un animal qui est responsable de 100 000 morts par an, puis celui d'eau douce, à lui seul, 20 000 décès. C'est parce qu'il transmet un parasite. Fait que c'est pour ça que ça donne la fièvre de l'escargot. Puis l'humain qui est en contact avec ce parasite-là, puis dans l'eau, ça se propage un peu plus. Bien, il se fait attaquer au cerveau, puis ça donne une méningite. C'est
travailler
cool.
Si fort, payer autant d'impôts, souffrir autant pour finir par te faire tuer par un escargot d'eau douce.
Oui. Oui.
À ce niveau-là, j'aimerais mieux que ce soit comme un lion. Là. Ça, tu passes un peu plus à la légende auprès de tes enfants.
L'escargot d'eau douce qui t'a donné un parasite. Le,
Mon père s'est battu contre un lion.
Le réduvidé est en sixième position. Ça, c'est 12 000 morts par an. C'est pas rien quand même. On dit que c'est très mal connu, mais ça, c'est en Europe. Et ça s'apparente aux punaises. Donc, abat, extermination, mesdames et messieurs. Mais c'est une affection parasitaire. Ça m'écœure tellement qu'il donne la maladie de Shanga. Puis ça sévit en Amérique latine aussi, mais c'est beaucoup d'essais, plus de 12 000. Donc, c'est pas transmise par la piqûre, mais c'est transmise par même le contact.
Il y a quelqu'un qui a dit champignon. Puis là, je me dis, mais voyons, pourquoi il écrit ça? C'est pas un animal. Mais c'est vrai que les champignons peuvent parasiter ton système. Là.
Absolument, mais on parlait d'animal dans ce temps-là. Mais oui, effectivement, le champignon est quand même mortel. On fera une liste des champignons mortels. La mouche tsé-tsé. Tu sais, comme la toune, là, quand t'es jeune au camp de jour.
La mouche tsé-tsé.
Oui. Tsé-tsé, comme je te dirais tsé.
Il y avait une toune là-dessus au camp de jour?
Oui. C'était quoi? La mouche tsé-tsé. Hey! Non, ça te dit rien? Merci.
Vas-y, continue.
Non, c'est correct. Je me sens comme du bétail, justement. 10 000 morts par an pour la mouche tsé-tsé. Et ça s'appelle mouche qui tue le bétail. C'est celle-là, dans les régions d'Afrique, là, qui vaut mieux d'éviter et provoque la maladie du sommeil. Ça, d'après moi, il y a une couple de personnes qui l'ont et qui ne savent pas. Mais c'est parasitaire, ça aussi. Donc, la mouche tsé-tsé. 10 000 décès par an. On y arrive avec l'Ascaris lumbricoïde.
Attends un peu, là.
Ouais.
Pas trop vite.
Je fais pas une... C'est pas du tout ma chanson de 4 jours.
C'est la mouche tsé-tsé, c'est une rumba.
Continue tes recherches en tapant mouche tsé-tsé. Non, c'était pas ma version.
C'était ça que tu faisais?
Non, c'est pas ma version. Mais tu peux peut-être écrire mouche tsé-tsé, chanson de 4 jours. Du Québec. Sinon, 418-971-1021, quelqu'un qui nous appelle nous la chante, on lui donne un prix. Un ver, lui, mais m'écœure tellement. Un ver dans la liste des animaux les plus dangereux au monde. C'est un parasite intestinal. Fait que t'as une affection qui s'appelle l'ascaridiose, puis ça atteint juste l'homme. Puis ça vous tue, mesdames et messieurs.
C'est ça?
Non.
Sous les bananiers,
non.
Mambo se promène, non, toujours fatigué. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler?
Non. Pourquoi est-ce que la mouche, tu sais, qui tue autant de monde, a une si belle chanson douce à l'oreille?
Je sais pas.
La comprends pas. On est rendu au crocodile, Yannick. C'est beaucoup moins que le moustique qui est à 1 million de morts par an pour l'homme. C'est 1 000 morts par an. Fait que pour les 10 espèces de crocodiliens sur le globe entier, il y en a...
C'est la mouche tétée.
Tu vois pourquoi, avec les mouvements, je voulais pas t'achanter?
Ça explique pourquoi t'es de même aujourd'hui.
Non, il y a plein d'enfants de la ville de Québec qui ont vécu la même chose que moi, là. C'est juste que c'est ça. On fait peut-être des métiers un peu étranges.
Marie-Jo dit, mouche tétée, j'ai ramené du fond du Zimbabwe un copain impossible d'oublier.
Oui! C'est ça, mais puis il y a vraiment un petit paragraphe qui est épouvantable, là. Ça passe plus, ça. Je peux pas croire. Relis la phrase que tu viens de nous lire. 88-971-1021, si tu veux nous appeler.
Moi, je t'sais, j'ai ramené du fond du Zimbabwe un copain impossible d'oublier.
Pense-y. Pourquoi est-ce que les enfants chantaient ça?
Je sais pas.
Pourquoi est-ce qu'on nous faisait chanter ça? Il y a beaucoup de messages subliminaux en dessous, là.
OK.
Crocodile, 1 000 morts par an, Yannick. Fait que tu n'auras pas nécessairement cette mort-là si tu ne la cherches pas.
Je l'ai ici. J'ai ramené du fond du Zimbabwe un souvenir impossible d'oublier. J'ai ramené un petit copain bronzé pour remplacer mon chum qu'ils ont mangé.
Oui.
Après 2 jours que j'ai été arrivé, ils m'ont posé un gros anneau dans le nez.
Oui?
J'ai mangé du crocodile salé, du serpent, du tigre, de la mouche tétée.
Oui.
Ils m'ont montré une chanson que je vais te montrer. Tu vas voir, c'est pas bien compliqué.
Non.
C'est Umbaloum Baloum Baloum Baoué.
Ben oui.
Umbaloum Baloum Baloum Zimbabwe. Mm-hmm. Umbaloum Baloum Baboué. Umbaloum Baloum Zimbabwe.
Oui.
C'est ça que vous chantiez?
Oui. C'est une de plusieurs.
Vraiment, une génération de fucking.
Mais tu sais, c'est pas drôle ça, quand même. Là.
Nous autres, c'était le docteur Guéritou.
Je l'ai. Il y a des enfants beaucoup trop jeunes qui chantent. Je te l'envoie sur ta messagerie. Tu vas pouvoir l'écouter. À l'instant. Mais ça, Yannick, pourquoi est-ce qu'on fait chanter ça aux jeunes? Il y a tellement de messages subliminaux.
Je sais pas.
Je te l'ai envoyé sur notre conversation Messenger. Tu vas pouvoir la mettre en onde si jamais ça te tente. Et je vous rappelle que les enfants qui la chantent ont entre 4 et 6 ans.
Entre 4 et 6 ans?
Oui.
OK, il faut que je te fasse... je l'ai pas reçu, je pense.
Oui, tu l'as reçu. Je l'ai. C'est moi, ça.
Ça, c'est toi qui chantais ça?
Non, ben oui, avec plusieurs amis.
Ah, il y a une pause, là, de 30. Hey, on est-tu vraiment...
Ben, c'est toi.
En as-tu vraiment besoin?
Ben, moi, j'ai dit non tantôt.
C'est pourri.
Mais non, mais c'est parce que tu l'as pas mis au bon.
On l'entend pas. Hey, on peut-tu faire entendre la musique qui a du bon sens, ces ondes de boulevard?
On a en plus.
Pearl Jam, Daughter, à l'instant, dans vos oreilles.